Reprenons le fonctionnement, le mode d'emploi en fait de nos corps, plutôt des relations entre des corps humains.
Pia. Ouais, ou quelques petits mots peut-être pour préciser les termes du débat. J'avais tenté d'en suggérer quelques-uns dans la récente journée d'études autour des sextoys, donc à l'université Toulouse-Jean Jaurès. À commencer par un terme qu'on utilise ou qu'on entend très souvent, qui est le terme queer, dont il faut un peu repréciser l'origine et le sens. Donc à l'origine, c'est un terme qui signifie bizarre en anglais, et puis qui a fini au tournant du 19e siècle par devenir une insulte, désignant plus particulièrement les hommes homosexuels, et puis au cours du 20e siècle, c'est devenu une insulte plus générale, un terme parapluie, désignant en fait toute personne non hétérosexuelle. Et puis également un terme qui désigne des personnes ne possédant pas l'identité de genre attendue. Le terme de queer, plus récemment, a fait l'objet de ce qu'on appelle une réappropriation. Donc ça a été l'enjeu d'une lutte politique pour les personnes désignées queer, qui ont fini par s'auto-désigner queer pour revendiquer cette identité et comme moteur de leur lutte, que l'on dit aujourd'hui LGBTQIA+POC, voilà, puisque cet acronyme n'en finit pas de s'augmenter et finalement, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, je parlais d'identité de genre. Genre, voilà un autre terme qu'il faut préciser. On entend parfois l'expression d'étude du genre, ce qui est absolument complètement faux, ou l'étude du genre, alors qu'on parle toujours de gender studies en anglais au pluriel, puisqu'il s'agit bien d'étudier les diverses manières dont le genre affecte nos vies. Donc, pour proposer une définition assez simple, le genre, c'est le codage social et culturel qui affecte nos personnes sur une base binaire, c'est-à-dire qui considère que les humains se diviseraient entre deux catégories, celles qui auraient une identité masculine et celles qui auraient une identité féminine. Et le genre en lui-même n'est ni bien ni mal. Ce qu'on peut par contre juger, c'est le codage genré qui produit de la normativité, donc une série de normes, et avec ces normes, une série d'attentes. Donc par exemple, si vous êtes assigné homme, on s'attendra à ce que vous ayez un comportement masculin. Et là peuvent commencer les problèmes, puisque cette identité masculine, selon les cultures et selon les contextes, peut venir avec un ensemble d'idées qui ne vous correspondent pas. Il en va de même, bien sûr, pour le terme féminin. Le terme genre lui-même provoque l'apparition ou prépare le terrain, d'une certaine manière, pour les pratiques ou les identités dites transgenres. Alors, transgenre s'emploie aujourd'hui comme adjectif et désigne des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Je parlais du partage binaire des genres à l'instant. Ce partage, il est réalisé sur une base et une observation assez simple. C'est que quand vous naissez, on regarde ce qu'il y a entre vos jambes et on vous assigne par là un sexe et l'identité de genre qui l'accompagne. Donc on parlera plus généralement, plutôt que de femmes et d'hommes, dans des perspectives queer, de personnes assignées femmes et de personnes assignées hommes. Et les personnes donc transgenres et non transsexuelles, comme on l'entend encore un petit peu, sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et puis, comme souvent, ce terme de transgenre qui désigne finalement une minorité de personnes ou une minorité opprimée va générer son envers qui va venir requalifier la majorité. Donc, en miroir de ce terme de transgenre, on va avoir le terme de cisgenre qui, lui, désigne des personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Donc là, on retrouve quelque chose qui s'est passé plusieurs fois historiquement. Par exemple, c'est le terme d'homosexuel qui est arrivé en premier et qui a donné lieu ensuite au terme d'hétérosexuel. Et là, de la même manière, le terme transgenre est d'abord arrivé et il a obligé, d'une certaine manière, à penser l'identité cisgenre en miroir pour désigner en fait des personnes qui ne se désignaient pas puisqu'elles se considéraient naturellement étant dans un cas dit normal avec
donc tu veux dire
guillemets.
Que la normalité en fait se définit en creux justement par rapport aux exceptions.
Exactement, mais ça c'est des choses qui sont alors bon il y a beaucoup de gens qui abordent cette question mais par exemple Pierre Bourdieu dans La domination masculine explique très bien qu'un des plus gros privilèges masculins c'est le privilège de la transparence. Donc exemple très simple et très quotidien, vous dites je vais voir un match de football. Vous ne dites jamais « je vais voir un match de football masculin ». En revanche, si vous allez voir un match de football féminin, vous direz « je vais voir un match de football féminin ». Vous le préciserez. C'est-à-dire que la domination, souvent, c'est le bénéfice de ne pas dire ce que l'on est. Voilà. Alors après, ça, c'est aussi une question qui peut beaucoup se discuter et qui m'emmène sur un autre terme essentiel de notre conversation. D'ailleurs, je vais employer ce mot, qui est le terme d'hétéronorme. Donc le terme d'hétéronorme, ça désigne le fait que le modèle hétérosexuel fasse autorité dans une somme de comportements. Un des plus grands pouvoirs de l'hétéronorme ou de l'hétéronormativité, c'est celui de supposer que les gens sont hétéros jusqu'à preuve du contraire. Et que si les gens, par exemple, ne sont pas hétéros, ils sont sommés de le dire. Voilà. Donc c'est un des effets le plus fréquent de l'hétéronormativité, qui va notamment avec ce qu'on a appelé la mise au placard. C'est-à-dire que si vous êtes homosexuel ou lesbienne, il y a cette idée que vous devez le dire. Voilà. Cela doit se dire. Alors que jamais vous n'avez fait votre coming out d'hétérosexuel, par exemple. Voilà. Donc là, alors que ça devrait, logiquement, si la sexualité doit se dire, il y a un même enjeu de coming out pour les personnes hétéros ou homo. Et un dernier terme qui rejoint le terme de cisgenre, c'est le terme de cissexisme. Alors le cissexisme fonctionne un petit peu comme l'hétéronorme. C'est un mécanisme tout à fait similaire dans son fonctionnement. C'est l'idée de considérer que les personnes sont cisgenres par défaut. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez une personne et parce que vous identifiez chez cette personne une somme de codes physiques, vestimentaires que vous reconnaissez comme étant, par exemple, masculin, vous en concluez que cette personne est un homme, alors que son expression de genre peut être tout à fait en dissonance avec ce qu'elle ressent, ou la lecture que vous faites du corps de cette personne peut être complètement erronée. Un des effets parallèles du cissexisme, c'est de penser que les personnes trans veulent absolument passer pour des personnes cisgenres. Qui va amener une somme de discours assez dérangeant, où dès lors qu'une personne transgenre va être visible ou audible dans l'espace public, on va juger de sa performance de genre, on va la noter un peu en disant est-ce qu'elle fait bien la femme, elle passe, ou est-ce qu'elle peut passer pour une femme cis, alors que jamais de la vie vous ne jugerez de cette manière de la performance de genre d'une personne cisgenre. Voilà. Donc ça, tous ces termes-là qui sont un peu techniques, et je m'excuse aussi s'ils peuvent paraître compliqués, permettent en fait de désigner toutes les interactions qu'on peut avoir sur la base du genre et qui sont pas du tout anodins dans le débat qui nous occupe sur les robots et les sexbots et autres sextoys.